sur les zones vulnérables, il pourrait être utile de bien repréciser ce que l'on sait sur le changement climatique et les différentes échelles et les certitudes et les incertitudes, de façon à ce qu'on puisse partir en partager ensemble une même base de connaissances sur laquelle après on peut s'appuyer pour travailler sur la question d'adaptation. Donc moi je dois faire l'échelle globale et Benjamin Sultan complétera sur une échelle plus régionale. Alors je vais m'appuyer sur les résultats du GIEC, le groupe interdépartemental d'experts sur l'évolution du climat, son quatrième rapport. Et donc il y a un nombre de choses qui doivent être pas mal connues, j'essaierai d'insister sur ces différents facteurs d'incertitude pour être sûr qu'on soit bien clair sur les différents niveaux. Bon, je vais repartir des résultats qui ont été quand même pas mal disséminés sur, lors du dernier rapport, qui sont déjà la variation depuis 1850 ou 1850 jusqu'à la 2006 de la température moyenne globale, où vous avez les points année par année, et puis la courbe lissée qui vous montre cette augmentation sur le dernier siècle de 0,7 degrés, avec des années les plus chaudes qui se trouvent dans les années de 95 à maintenant, puisque même les données plus récentes restent dans les années les plus chaudes depuis 1850. Même si on voit une espèce de il y a un petit plat en fait, on reste quand même dans les années les plus chaudes du siècle. Cette augmentation de la température s'accompagne aussi d'une augmentation du niveau de la mer qui s'intensifie sur les 30 dernières années, enfin depuis 93, on est plutôt à 3 mm par an, alors qu'auparavant, sur la moyenne qui est plus longue de 61 à 2003, on était plutôt à 1,8 mm par an. Et puis on observe d'autres indicateurs, merci Guillaume, comme la couverture de neige qui diminue. Donc un ensemble d'éléments qui vont tous dans le fait que le réchauffement est sans équivoque, qui est la première des grandes conclusions de la base scientifique du changement climatique. Alors, pour vous montrer géographiquement ce que ça donne, et un certain nombre de caractéristiques que vous allez retrouver dans les projections futures, ce réchauffement, en fait, là, c'est de 96 à 2009, c'est la moyenne. Vous pouvez, en fait, sur ce site, vous pouvez sortir de façon très aisée les cartes, tous les éléments qui peuvent vous intéresser pour regarder certaines périodes. L'anomalie de température, donc l'écart à la climatologie, la climatologie étant définie dans ce cas-là comme la moyenne de 1951-1980, et on voit un réchauffement plus marqué sur les continents que sur les océans, plus marqué dans les moyennes et hautes latitudes que dans les tropiques. Ici, en fait, l'orange est de 1 à 2 degrés, et le rouge, c'est supérieur à de 2 à 4 degrés, et le jaune est que de 0,2-0,5, donc reste relativement plus limité. J'ai fait exprès de prendre la carte non lissée, non pas la carte lissée. Souvent, on montre des cartes qui sont remplies partout. L'avantage de la carte non lissée, c'est que ça vous montre en gris, ce sont les zones où, en fait, on n'a pas de données. Donc ça vous met en évidence que bon, il y a des déficits de données dans les hautes latitudes, des déficits de données dans des zones de régions d'Afrique, des déficits de données au niveau de l'Antarctique. Et donc c'est important de se rendre compte qu'on a quand même, on a beau avoir une couverture la plus globale possible, on a encore un certain nombre de trous. Alors, parallèlement, il y a clairement augmentation des gaz à effet de serre, et je pense que vous avez déjà tous vu ces courbes, augmentation de la quantité de CO2, augmentation du méthane, augmentation de l'oxyde nitreux, avec le CO2 qui vient à 80% de l'augmentation des consommations d'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz, 20% de la déforestation, le méthane qui est en particulier lié au problème des zones comme les rizières, des zones humides artificielles, et puis le N2O qui est plus lié à l'agriculture. Bon, c'est pas parce que les deux sont en parallèle que ça nous permet de dire qu'en fait cette augmentation, ce réchauffement est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre, et pour passer de l'un à l'autre, en fait, on utilise les modèles de climat. Ces modèles de climat vont représenter à la fois l'atmosphère, les phénomènes dans l'océan, les continents avec la végétation, le relief, les transferts de l'océan vers le continent, la fabrication des précipitations et le retour des continents vers les océans avec des mailles comme il faut pouvoir représenter l'ensemble de la Terre qui sont plutôt de l'ordre de 200-250 km. Pour le prochain rapport, on espère de descendre à 100-150 km. Et qui vont permettre de représenter le fonctionnement de l'ensemble de ce système. C'est uniquement par les modèles que l'on peut arriver à savoir, à essayer d'attribuer, c'est-à-dire on détecte un changement du climat, mais pour pouvoir l'attribuer, connaître sa cause, il faut pouvoir étudier l'impact de différents processus. Donc les résultats qui ont été présentés dans GIEC, c'est un ensemble de résultats de simulation. En noir, vous avez les observations, donc c'est cette courbe avec ces deux phases de réchauffement. En bleu, ce sont les jeux de simulation qui sont sans qu'avec les facteurs naturels. Et en rose, ce sont les simulations avec les facteurs liés aux activités humaines. Et ce que cela montre au niveau global, comme pour chacun des grandes zones continentales, c'est qu'en fait, la première phase du réchauffement peut très bien être naturelle. Par contre, la deuxième phase du réchauffement des 50 dernières années ne peut absolument pas être expliquée sans tenir compte de l'augmentation des gaz à effet de serre. Et c'est vrai au niveau global, c'est vrai sur les océans, c'est vrai sur les continents et c'est vrai dans les différentes régions. Et c'est ce qui a mené à la conclusion que la majeure partie du réchauffement des 50 dernières années est très probablement due à l'augmentation de l'effet de serre par les activités humaines. Bon, les modèles sont aussi les éléments qui vont nous permettre de faire des projections dans le futur en s'appuyant sur des scénarios développés par les économistes et les démographes de différentes possibilités, différents scénarios d'émissions de gaz à effet ici de CO2, mais aussi des autres gaz à effet de serre jusqu'ici en 2100 avec, si on ne fait rien, plutôt les courbes du haut, et sinon s'il y a une réduction importante, une modification importante de nos modes de consommation d'énergie, on pourrait être dans les courbes les plus basses. Dans tous les cas, ça conduit à une augmentation du CO2. Actuellement, on est à 383 ou 4 parties par million, qui atteint de l'ordre de 500 dans les valeurs les plus basses, mais qui peut monter à 900 parties par million à la fin du siècle. À partir de là, on peut étudier pour chacun de ces scénarios quelle est la réponse du climat en utilisant le modèle comme le moyen de faire une expérimentation numérique. Donc à partir de ces mêmes modèles, on va étudier différents scénarios. Pour chacun des scénarios, réaliser une simulation et plusieurs simulations, c'est-à-dire dans le sens où en fait c'est un exercice international qui est fait avec différents modèles de façon à mieux comprendre la sensibilité d'un modèle à un autre, et on obtient les courbes ici sur l'augmentation, le réchauffement, la variation de la température de 1900 à 2300. De 1900 à 2000, c'est la reproduction des observations. En noir sont les observations et on a la réalisation des simulations par les différents modèles qui montrent qu'on est capable de reproduire le climat du dernier siècle. Et puis arrivent après, ensuite, les différentes projections, le scénario A2 qui est un scénario haut, le scénario A1B et le scénario B1. Donc trois, ici, chacune des zones colorées correspond à un scénario économique différent. Bon, on voit que dans tous les cas, de toute façon, à partir du moment où le gaz carbonique augmente, il y a augmentation de la température, on a réellement l'effet de serre qui joue un rôle de forçage important sur la circulation. La zone le très foncé, c'est la moyenne des modèles, et vous avez en fait en coloré la gamme des réponses des modèles pour chacun des scénarios. Alors, ce que l'on voit, c'est que la température, les projections dépendent en premier du scénario économique. Donc on va atteindre plus 3,5 dans ce cas-là. On est autour de 3 degrés dans ce scénario A1B, autour de plus 2 degrés par rapport à maintenant dans le scénario B1. Donc on dépend d'abord du scénario économique, mais sur chacun des scénarios économiques, on a une certaine plage d'incertitude entre les différents modèles, et cette plage d'incertitude en fait vient principalement de la différence de représentation des nuages dans les modèles, qui sont un des facteurs complexes à représenter et qui on a pu voir mettre en évidence par un certain nombre d'analyses, est le premier facteur qui va varier d'un modèle à un autre. En fait, tous les modèles montrent que quand on augmente la quantité de CO2, ça fait, donc d'abord, un, ça fait un chauffage direct. Deux, il y a une rétroaction positive par la vapeur d'eau. Trois, il y a une rétroaction positive par la neige. Mais quatre, on a les nuages qui peuvent soit augmenter, soit diminuer cette rétroaction. Et c'est ce qui fait qu'on peut obtenir une gamme de valeurs suivant les différents modèles. Bon, là, c'est les scénarios où ensuite il y a stabilisation, et on voit que même quand il y a stabilisation, le climat continue à se réchauffer à peu près, pour atteindre l'équilibre, il faut encore à peu près 0,5 degrés. En fait, c'est ce qu'on voit ici dans cette courbe-ci. Et ce serait pas mal celle-là, on aimerait bien la suivre. L'ennui, c'est qu'elle suppose que dès maintenant, on maintient complètement constante la concentration de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre, ce qui est absolument irréaliste. En fait, elle suppose 370 parties par million. Donc on a déjà 0,7. Ici, celle-ci donne au moins 0,5. Donc si vous regardez, on a au moins 0,7 plus 0,5, c'est-à-dire 1,2. Quand on dit au niveau global de limiter à 2 degrés, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il faudrait être vraiment, même ce scénario-ci rajoute 1,5 degrés. Donc on est au-delà de cette valeur des plus 2 degrés préconisée au niveau international pour éviter les risques les plus importants. Alors en fait, ce que vous avez vu dans le rapport, le résumé aux décideurs, ce n'est pas tout à fait la version que je vous ai présentée. C'est celle-ci que je viens de vous présenter, mais tronquée à 2100. Et ici, vous avez un ensemble de gammes présentées avec des incertitudes même encore plus importantes que celles dont j'ai parlé ici. En fait, ici, pour chacun des scénarios, l'incertitude, elle est liée donc essentiellement aux nuages, ceci avec les modèles d'atmosphère-océan. Et ici, en fait, vous allez voir apparaître une incertitude plus importante qui est liée à la prise en compte du cycle du carbone. En fait, si on regarde dans la quantité de gaz à effet de serre, de gaz carbonique en particulier, qu'on envoie dans le système, la moitié est actuellement stockée par les océans et les continents. Mais avec le réchauffement du climat, en fait, ce stockage par les océans et par les continents tend à être réduit. Et on commence juste à aborder ce genre de questions. En fait, on n'a pas encore énormément de recul. Et quand on prend en compte ce phénomène, ça va accélérer, en fait, ça va plutôt augmenter donc, le réchauffement, parce qu'en fait, la quantité de CO2 va augmenter dans l'atmosphère. Mais l'incertitude est encore assez grande entre les différents modèles, et c'est la gamme complète des incertitudes, incluant celle des nuages plus celle du carbone, qui est représentée ici de façon à donner vraiment la gamme complète des incertitudes. Mais vous voyez qu'elle est l'incertitude sur le cycle du carbone rajoute une incertitude importante. Donc on peut aller entre 1 et 6,4 qui sont souvent les valeurs qui sont données, mais qui incluent ces deux sources d'incertitudes. Au niveau des caractéristiques, par exemple ici pour un scénario moyen à 1B, qui correspond en 2100 à une moyenne globale de plus 2,8 degrés. Les caractéristiques se retrouvent dans tous les modèles, avec un réchauffement plus marqué dans les moyennes et hautes latitudes que dans les tropiques, plus marqué sur les continents que sur les océans. Ça a un air, si on compare avec la moyenne 1996-2009, ça ressemble très fortement à ce qu'on observe en fait déjà. Maintenant, on a les mêmes signatures dans l'augmentation de la température que l'on observe, sauf que les chiffres sont plus importants. Ici, en fait, on est dans du 4 à 5 degrés et on peut aller jusqu'à du 6-7 degrés dans les hautes latitudes. Donc, ce que l'on voit déjà actuellement a déjà la trace, les caractéristiques de ce réchauffement, mais celui-ci est plus marqué là, à la fin du siècle, lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc l'amplitude maintenant dépend du scénario, et afin de mieux montrer ça, on peut voir ici différentes, pour différents scénarios, de B1 à 1B à A2, donc on va de plus en plus fort en émissions de gaz à effet de serre, 2011-2030 maintenant, milieu du siècle, 2046-2065, fin du siècle, et vous voyez qu'à chaque fois, plus le scénario augmente, plus le réchauffement est marqué, et dans le temps le réchauffement garde les mêmes caractéristiques mais s'intensifie au cours du temps. Celui-ci est plus proche de ce qu'on observe déjà maintenant, et on voit que ça va en s'intensifiant, avec, si vous remarquez, les premières décennies, finalement, les cartes se ressemblent énormément, c'est-à-dire qu'en fait, les 20 prochaines années, il y a très peu de dépendance avec le scénario, alors que ça se différencie beaucoup plus à partir de la deuxième moitié du 21e siècle. Alors, ça ne joue pas seulement sur la température moyenne globale, mais aussi sur les extrêmes, et ça, c'est un des éléments importants par rapport aux facteurs de vulnérabilité. Ici, vous avez, par exemple, la température d'été en France, avec les deux modèles, IPSL et Météo France, en vert et rouge. Et puis, les points, ce sont les observations. Donc, si on regarde jusqu'à maintenant, on voit que on a des variations d'une année à l'autre qui sont reproduites par le modèle. En amplitude, il n'y a aucune raison qu'ils reproduisent chaque année, puisqu'on n'est pas on est juste dans un problème qui est dans la reproduction statistique du climat et non pas dans sa prévision année par année. Et on voit que 2003 ressort complètement de la gamme déjà des observations et même des simulations pendant toute la première partie de tout le 20e siècle. Si on regarde dans les projections cette fois-ci, on voit qu'en fait, si on est dans un scénario haut à 2 ou un scénario bas, dans tous les cas, on va avoir augmentation de cette température d'été avec davantage de vagues de chaleur. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous les modèles. Mais on voit que finalement, si on est dans un scénario bas, le maximum sera atteint, le niveau de 2003 sera atteint très régulièrement, mais finalement restera quand même à peu près un maximum, alors que si on est dans un scénario haut, finalement 2003 à la fin du siècle pourrait nous paraître une année relativement froide, ce qui montre quand même la différence importante entre les différents scénarios. Au niveau des changements des pluies, ici c'est une carte de la moyenne des différents modèles du changement de précipitation annuelle. Plus de pluie en bleu et moins de pluie en jaune orangé, et qui vous montre un certain nombre de caractéristiques, avec une augmentation des pluies dans les hautes latitudes, que ce soit dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, en particulier au nord de l'Europe, et une diminution des pluies dans la zone subtropicale, en particulier dans la zone méditerranéenne, Nord-Afrique, ainsi que dans l'hémisphère sud. Quand on dit augmentation des pluies, en fait, c'est non seulement en quantité, mais c'est aussi en intensité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est marqué par des pluies plus intenses. Et au contraire, les zones où il y a diminution des pluies correspondent à une diminution de la disponibilité en eau, mais si on regarde, ce sont déjà dans des régions qui sont déjà des régions qui sont en déficit, qui ont déjà une quantité d'eau peu disponible. Donc c'est plutôt une intensification des situations actuelles. Bon, il y a aussi des cyclones tropicaux plus intenses qui sont des risques. Un point important, c'est les pointillés. Vous voyez qu'il y a des pointillés, mais pas partout. Les pointillés, en fait, ce sont les zones où il y a 80% d'accord entre les différents modèles sur le signe du changement. Donc les modèles, à plus de 80%, sont d'accord qu'il y a plus de pluie au nord, plus de sécheresse au sud par rapport à l'Europe. Mais vous avez des zones, comme par ici, dans la zone Sahel, où il n'y a pas de point, ça veut dire qu'en fait, il y a un désaccord entre les modèles. Et il y a des modèles qui montrent plus de pluie au Sahel et d'autres moins de pluie. Il n'y a actuellement pas d'accord entre les modèles. Donc je vous demande, quand vous regardez ces cartes, c'est fait exprès qu'il y ait vraiment, qu'on note bien il n'y a réellement pas nécessairement accord des modèles sur toutes les régions. Évidemment, ça pose des difficultés pour pouvoir analyser les vulnérabilités puisqu'on a un déficit de signal. Et ça, c'est vrai pour les zones de mousson, comme en Afrique, comme en Inde. Par contre, le signal est très marqué sur la Méditerranée et maintenant, on est de plus en plus confiant dans ce résultat. Alors les autres risques, c'est typiquement l'augmentation du niveau de la mer qui devrait se poursuivre entre 20 et 60 cm, avec des risques de surcote, d'érosion côtière, de salinisation, de migration. Et ici, des résultats toujours tirés d'IPCC, qui montrent que si le nombre de personnes, s'il y a une augmentation, ça c'est en vert, c'est le niveau actuel du niveau de la mer, en bleu, le niveau avec 40 cm de plus de l'élévation du niveau de la mer, Si on garde les protections, les niveaux de protection côtiers tels qu'ils sont actuellement, c'est en fait de l'ordre de 250 millions de personnes qui pourraient être courir des risques liés à l'augmentation du niveau de la mer. Et par contre, si on augmente la protection, on pourrait réduire d'un facteur au moins, d'un facteur 2, ces risques. Vous trouverez dans le rapport, vous trouvez l'analyse de différents facteurs de risque, comme les vagues de chaleur, les précipitations intenses, les sécheresses, les cyclones plus intenses, le risque associé au niveau de la mer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut regarder ce qu'on observe déjà dans les risques. Il y a un certain nombre de risques où on voit déjà ces risques apparaître. Et puis ici, pour la fin du siècle, basé sur les scénarios, on voit qu'en fait, typiquement, les différents risques augmentent systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les vagues de chaleur qui sont probables actuellement deviennent très probables. Les sécheresses qui sont probables dans un certain nombre de régions depuis 1970 deviennent probables. Les cyclones plus intenses qu'on observe déjà dans l'Atlantique Nord deviennent probables sur l'ensemble du globe dans les régions chaudes. Et en fait, on voit qu'en fait, quand on regarde ce tableau, vous laissez tomber pour un moment cette colonne, c'est qu'en fait, il y a à chaque fois une intensification, c'est-à-dire qu'en fait, on est déjà en train d'observer un certain nombre de changements, sauf que ces changements vont devenir plus probables et plus intenses au cours du XXIe siècle. Je ne vais pas repasser l'ensemble des risques. Hein. Je pense qu'au cours des journées, on verra à la fois la partie réchauffement, augmentation du niveau de la mer, diminution de la glace de mer, des pluies intenses, mais aussi des risques sur la production agricole, les écosystèmes, les impacts sur la santé. Pour conclure, en fait, si on regarde au niveau de l'adaptation, c'est un processus qui peut s'appuyer soit sur les changements déjà observés, soit sur les tendances observées, soit sur les tendances simulées. Et le tableau que je vous ai montré vous montre qu'en fait, effectivement, ce qu'on observe déjà est finalement déjà la marque d'une tendance. Alors, ce ne sera pas nécessairement systématiquement, il faut être assez vigilant. Mais par contre, il faut faire attention qu'on ne peut pas juste s'adapter à ce qui se passe maintenant. Il y a un certain nombre pour les tendances, pour les phénomènes qui sont de plus longue durée, il faut faire attention que certaines. On va réellement avoir des augmentations très fortes d'amplitude, et ça n'est pas juste ce qu'on observe maintenant qui peut servir de base. Si on regarde les vulnérabilités face à ces risques, ça va toucher les ressources en eau, l'agriculture, les infrastructures, la santé. Et les modèles sont vraiment une base qui peut servir d'aide à la fois sur les tendances et sur l'analyse des observations. Mais je voulais juste rappeler les incertitudes, ils contiennent un certain nombre d'incertitudes. Les scénarios, mais ça, je dirais que c'est l'incertitude positive, c'est nos moyens d'action. Mais ensuite, les processus, les nuages, le cycle du carbone que je vous ai déjà mentionné, et puis l'échelle, parce qu'en fait, avec une échelle de 200 km, disons, on va avoir du mal à représenter bien ce qui se passe à l'échelle régionale, des effets de relief, des phénomènes qui vont être marqués par une caractéristique plus régionale. En particulier, ça apparaît sur les précipitations, et Benjamin va pouvoir expliciter davantage ce qui peut être fait pour essayer d'améliorer ce qui se passe au niveau régional. Au niveau des modèles globaux, c'est un des enjeux d'arriver à améliorer cette prévision à l'échelle régionale, mais qui dépend beaucoup des moyens de calcul disponibles, puisqu'en fait, on est très limité par la puissance de calcul. Voilà, je vous remercie.